Nous sommes trois professionnels de l'éducation dans le sud de l'Ontario.
Mylène Brassard,
Vicky Fauteux
et Jennifer Davies. Puisque nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe.
Quoi?
OK. En effet, nous avons...
Toute la classe.
Nous allons vous proposer des épisodes sur des thèmes ponctuels en éducation, tels que la planification,
l'évaluation,
l'intégration de la technologie,
la persévérance
et bien plus encore.
Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de la discussion sur notre page Facebook.
Bonjour, bienvenue à Toute la classe, une initiative du Conseil scolaire Viamont. Aujourd'hui, nous parlons de l'enseignant en début de carrière. Nous passons tous par cette étape parfois difficile, mais plein de beaux succès aussi. Aujourd'hui, nous avons la chance de discuter avec Sarah Lalonde, qui a su documenter son cheminement et son parcours dans son podcast « Que sera Sarah? » et qui parle de sa vie universitaire et de son début de carrière. Bonjour Sarah!
Salut! Allô!
Merci vraiment beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous autres, c'est notre dernière journée de travail, mais ça fait une semaine que tu es en vacances, n'est-ce pas?
Puis j'en profite du mieux que je peux. C'est pas toujours facile, mais je fais de mon mieux.
Oui, tu l'as bien mérité, là, parce que c'est quand même, la première année d'enseignement, ça, c'est jamais facile. Alors on te comprend.
Oui.
Alors, parle-nous un petit peu de toi.
Donc, salut tout le monde. Moi, c'est Sarah Lalonde. Je suis, comme vous l'avez dit, je viens juste de terminer ma première année d'enseignement. Cette année, j'ai été très, très, très chanceuse d'avoir un poste à temps plein permanent dans une école catholique francophone avec le conseil scolaire CSD-CEO dans l'Est ontarien. L'école où j'ai enseigné cette année et pour l'année prochaine, justement, c'était dans un petit village qui s'appelle Alexandria. C'était l'école catholique secondaire Le Relais. Et puis, j'ai enseigné 9e, 10e année français, English, histoire et géo. Donc, ça a été toute une expérience dans des domaines, puis des matières, puis des années dans lesquelles je ne m'attendais vraiment pas à enseigner, surtout parce que je m'alignais pour aller enseigner à l'intermédiaire. Comme ma formation a été moins intermédiaire, donc 4 à 10. Et puis, j'ai juste été chanceuse d'avoir un poste en 9e et 10e année. Puis, j'adore tellement ça que j'ai accepté mon poste à nouveau pour septembre prochain.
C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment toute une bonne nouvelle. Combien d'élèves dans cette école?
Oh, c'est une toute petite école. On a environ 200 élèves, 7-12.
Oh, wow, OK.
Et c'est les mêmes matières que tu vas enseigner l'année prochaine?
Donc, moi, je suis vraiment chanceuse parce que cette année, j'ai enseigné des cours d'échelon local en français, English et histoire. Et là, l'année prochaine, je vais avoir mes mêmes élèves en échelon. On est comme une petite famille. Ils sont à peu près, on est comme 10 élèves et moi. Je leur enseigne maths, français encore, English encore, science l'année prochaine. Puis j'aurai un cours de English 10e année théorique.
Et étant donné que ce n'était pas nécessairement ce que tu avais prévu comme matière puis comme niveau, qu'est-ce qui t'a surpris le plus au cours de ta première année?
Bonne question. Autre que le fait que quand j'ai vu que j'allais enseigner histoire, j'étais pas super excitée parce que j'ai juste comme jamais accroché à l'histoire, puis là, il fallait que je l'enseigne. Mais je l'ai enseigné en 10e année théorique au premier semestre, puis là, à mon groupe d'échelon local au 2e. Puis je peux avouer que ça a été comme mon cours préféré à enseigner. Ça a été comme plot twist pour moi, parce que là, comme j'aime beaucoup l'histoire, j'aime surtout apprendre avec... C'est ça. OK. j'avais peur d'enseigner histoire dans les débuts parce que je suis pas formée, comme j'ai pas été faire mon bac en histoire. Donc là, j'avais peur de pas connaître plein de choses. Mais c'est quand je me suis dit, like I was going to embrace le fait que je savais pas, puis que j'allais apprendre avec mes élèves. Ça a vraiment été comme changement de mentalité, puis j'allais pas être, c'est comme le giver of knowledge, comme on allait apprendre ensemble. Ça m'a beaucoup aidé dans ça. Mais une autre chose que j'ai appris, comme la plus grande surprise, c'était le fait que, comme, tu sais, nous, en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, on a tellement la liberté de créer et de faire comme à notre façon dans notre salle de classe. Puis j'ai été vraiment choyée dans mon école cette année d'avoir cette liberté-là de, tu sais, on a nos objectifs, on a nos attentes, mais la façon puis la route pour chaque élève de s'y rendre pour connaître du succès, ça peut varier tellement, puis on peut juste, on est vraiment chanceux d'avoir une profession qui nous permet d'être créatifs parce que t'enseignes plus d'un manuel nécessairement, puis I guess que oui, ça m'a surpris parce que quand moi j'étais au secondaire, moi j'ai pas été enseignée la même façon que j'enseigne à mes élèves, puis ça m'a juste surpris étant l'enseignante.
C'est une excellente nouvelle.
Oui.
On devrait pas enseigner, nous on a reçu l'enseignement.
Mm-hmm. Alors, Sarah, je me rappelle ma première année en salle de classe. Je me croyais préparée, mais là, arrivée devant les élèves, je sais maintenant qu'il y a beaucoup de choses que je savais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, mais j'étais pas vraiment certaine comment tout faire. Est-ce qu'il y a eu des éléments de l'enseignement pour lesquels la faculté t'avait moins bien préparée?
Ouh! Ben comme tout le monde le dit, le fait que la faculté, on est là, on est en salle de classe, puis c'est très axé sur la théorie, comme les concepts, les recherches, et honnêtement, la recherche puis ces théories-là m'intéressent. Par contre, d'après moi, les éléments de l'enseignement pour lesquels sont les plus importants, c'est créer des liens avec les élèves, comment faire ça, pourquoi c'est important, puis comment ça peut justement comme avoir des liens, tu sais, comme à la fois qu'ils nous apprennent pas comment faire un bon lien avec les élèves. Donc, déjà là, il faut faire du chemin. Puis c'est grâce à ces liens-là que tu vas être capable plus tard d'appliquer les théories puis les concepts qu'on apprend à la faculté. Mais si tu n'as pas un bon lien nécessairement avec tes élèves, tu n'es même pas capable d'avancer, d'après moi. Et puis, l'autre chose, comme peu importe ce qu'on apprenait à la fac dans mes cours de psychologie ou de gestion de classe ou de gym ou de English, comme moi je prenais tout ce dont j'avais de besoin pour ma boîte à outils pour aller en enseignement. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai commencé mon podcast à cause que j'avais d'autres besoins qui n'ont pas été nécessairement touchés à la faculté. Donc, j'ai vraiment été chercher mes propres ressources et mes propres experts pour aider à alimenter ce que la faculté me donnait. Ça m'a beaucoup aidé.
Ah, oh, excellent. Mais ça, c'est un grand travail de savoir que voici ce que je ne sais pas. Et voici comment je vais faire pour aller chercher l'information dont je ne sais pas. Alors, c'est tout un travail de proaction, de proactivité par rapport à tes propres connaissances. Fait que ça, chapeau pour ça, ça prend toute une maturité pour reconnaître tout ce qu'on ne sait pas pour aller chercher ce dont tu as besoin. Mais est-ce que tu dirais qu'en lien avec ça, tu as eu besoin d'un support moral? Est-ce que tu as eu besoin de prendre tout? Oui.
Oui, oui, oui. Ben, aussi comme, juste pour revenir là, avec mon podcast, j'étais vraiment chanceuse d'avoir déjà été connectée à Twitter, comme dès le début de ma faculté. Et j'avais des bons liens avec des enseignants, des directions chevronnées, qu'eux avaient des podcasts. Et puis, c'était comme, wow, c'est vraiment intéressant de pouvoir leur écouter. Puis, tu sais, eux avaient des années et des années d'expérience. Donc, les questions qu'eux posaient comme... venait pas vraiment chercher mes besoins d'une jeune femme à la faculté d'éducation qui commence en enseignement. Donc, je me suis dit que j'allais comme créer mes propres ressources. Puis, dans cette humilité de juste dire comme, regarde, moi, j'ai commencé un podcast où le rôle que je joue en tant qu'animatrice, c'est pas que je connais rien, mais je suis à la découverte de X, Y, Z, plein de choses. Puis, je me suis dit comme, je savais qu'il y avait plein d'étudiants dans les salles de classe à la fac qui se posaient beaucoup de questions, mais qui ne savaient pas nécessairement par où aller comme poser la question à telle ou telle personne. Donc, je me dis, ben je posais les questions que moi, je pense que les élèves de la fac se posent. Donc, ça, c'était juste comme un petit peu de background info sur comme le pourquoi de mon podcast. Mais... cette année, j'ai été choyée d'avoir un personnel d'école juste vraiment, vraiment extraordinaire. On était vraiment une belle équipe. Avec ici en Ontario, quand tu commences ta première année d'enseignement, tu passes à travers le programme de PIPNPE. Donc, j'avais un mentor.
Qui veut dire le programme d'insertion du nouveau personnel enseignant.
Merci, oui. Moi, j'aime la clé. Amusant à dire. C'est très agréable. Pipenpe.
Moi, j'aime l'appeler Pipnepe.
Oui. J'ai jamais entendu ça de ma vie.
Oui.
J'adore. Donc, j'avais un mentor que j'étais vraiment chanceuse, comme j'avais le choix. Quelqu'un dans mon école, c'était mon... comme le département de notre programme de sciences sociales dans lequel comme j'enseignais. Et puis, vraiment un expert dans les domaines où j'avais comme vraiment besoin de travailler. Donc, comme l'évaluation en était une. Puis comme j'ai passé, je dirais comme 3 de mes 4 demi-journées avec lui, juste en parlant de comme l'évaluation puis tous ces aspects-là. Mais... j'ai aussi été très chanceuse d'avoir comme 2 autres nouvelles enseignantes qui ont pratiquement la même âge que moi dans mon école. Donc, on s'est vraiment comme réunis pour se poser des questions puis pour juste comme partager des ressources, juste jaser à la fin de la journée de défis qu'on avait vécu cette journée-là. Puis je me sentais beaucoup, beaucoup moins seule. Donc, juste incapable de parler avec des gens, recevoir des encouragements. Même des élèves comme, qui savaient qu'on était dans les débuts de nos carrières, puis des élèves qui quittent la classe puis qui disent « Madame, j'ai vraiment aimé ta leçon aujourd'hui, comme merci. » Tu sais, c'est vraiment. Puis aussi juste être sur les réseaux, comme voir que même si moi j'ai eu peut-être une journée difficile dans ma classe ou une semaine difficile dans ma classe, comme voir que ça va super bien dans la classe des gens que je côtoie en ligne, qu'il y a des belles choses qui se passent, puis que demain, on rentre en salle de classe avec une nouvelle approche, un autre sourire, puis qu'on continue. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment été plein d'acteurs qui ont fait en sorte, qui m'ont juste comme appuyé cette année.
Dirais-tu que les gens qui étaient autour de toi, ton entourage ou ton système moral ou était aussi, sinon plus important que les connaissances que tu as acquises pendant ton bac à l'université?
Ben oui, plus, parce que je pense comme l'idée qui vient de m'arriver en tête, c'est que mon support comme en personne, tu sais, dans mon école, savait les ressources qui existaient dans mon école, savait déjà les élèves avec qui, comme, j'enseignais. Donc, c'était vraiment important, comme, dans les débuts de chaque semestre, parce que même si on est une petite école, on ne peut pas connaître l'histoire de chaque élève, mais juste être capable d'aller leur poser des questions pour mieux comprendre mes élèves, puis avoir, tu sais, de l'empathie, puis savoir, comme, OK, eux, ça fonctionne mieux comme ça, ou, tu sais, plein de choses. Donc, moi, j'ai beaucoup... j'ai utilisé leur connaissance des élèves plus que leur connaissance de comme la matière ou leur connaissance de, tu sais, comme des concepts, des théories, des recherches que d'autres choses, parce que je pense que ça m'a été comme vraiment plus gagnant.
Oui, parce que je pense que les vraies bonnes questions à se poser en enseignement, c'est les questions qui ne se googlent pas.
Mm-hmm. J'adore.
Qu'est-ce que tu pourrais comme donner comme conseil à un enseignant qui commence en septembre prochain?
Vous l'avez mentionné dans mon podcast, mais je vais le répéter parce que c'est super important. C'est de sortir ou comme être confortable à être inconfortable. Puis ça vient de la formation que j'ai eue du coach à 360 avec Esquadre Edu. Mais l'importance, surtout dans ta première année d'enseignement, soit que tu enseignes dans ta matière ou pas dans ta matière, c'est correct de te sentir comme si tu n'es pas le maître de tout, puis que tu n'as pas nécessairement contrôle de tout, parce que c'est dans cet inconfort-là que the magic happens, comme sortir hors de ta zone de confort. Puis je pense véritablement, les filles, que c'est quelque chose qui m'a sauvée cette année. Parce que j'ai tellement enseigné hors de ma matière enseignable. Comme moi, j'ai seulement une matière enseignable, c'est English. Donc, j'ai enseigné géo, histoire, français. Comme, si j'avais pas pris la philosophie d'être inconfortable puis de juste dire comme, c'est correct de pas tout connaître, apprendre avec tes élèves, c'est comme, c'est une bonne chose. Demander aux élèves de t'apprendre des choses que eux savent déjà, c'est vraiment, ça a été comme vraiment significatif et représentatif de mon année. Puis comme j'ai dit, ça m'a sauvé de me dire, il faut que j'apprenne tout sur la Deuxième Guerre mondiale avant que les élèves l'apprennent, parce que je veux pas qu'ils pensent que moi je le sais pas. T'sais, moi je disais juste, hey, comme quand ils me posaient des questions puis que j'avais pas la réponse. « Hey, on va chercher ensemble. » Tout le monde, tu sais, on utilisait ça pour comme des « teachable moments
». Mais c'est super important, parce que si en tant que nouvel enseignant, on s'attend de tout savoir dès la première journée, ça va être un été chargé pour se préparer. Parce que contrairement aux autres professions, si je suis avocate, on ne va pas demander ma première année d'enseignement que de faire un cas, un procès super important. On va attendre que j'ai de l'expérience. Tandis que comme enseignant, dès ma première année, je dois tout de suite être sur des gros cas.
Oui, je pense que toi, tu es sortie de ta zone de confort, non seulement en salle de classe cette année, mais on t'a vu parler à la conférence Connect, t'as fait un speech Ignite. Alors, t'as dit oui à plusieurs choses cette année.
Ça, c'est comme... Oh, c'est épouvantable, parce que j'ai beaucoup de difficultés à dire non, premièrement. Je l'ai dit dans mon Ignite. Just say no. Or no is a complete sentence. Mm-hmm. Ça, c'est ça, oui, excuse. Et puis... C'est parce que j'ai peur de manquer une occasion qui m'est donnée. Puis même si j'avais des piles et des piles et des piles de connexions comme après mon Ignite, parce que j'avais juste fait, tu sais, comme 3 semaines d'écrire mon Ignite, pratiquer mon Ignite à chaque soir pour que ça soit parfait. J'ai mis toutes les autres petites choses dans l'enseignement on the back burner un peu. Mais tu sais, comme l'autre aspect de l'enseignement qui me passionne, comme j'adore être en salle de classe, je le sais, ça me passionne à 100 000%, mais je suis aussi passionnée de travailler avec des enseignants, d'être sur l'estrade, puis de livrer un Ignite, de donner des ateliers à des collègues. Comme c'est vraiment, moi je me sens vraiment chanceuse d'avoir tellement de passion dans le domaine de l'éducation, parce que ça me permet de faire plein de choses.
Génial.
Alors, je pense que tu en as parlé déjà un petit peu. On voulait te demander pourquoi tu as choisi de partager tes expériences par le biais d'un blog et par le biais d'un podcast.
Mm-hmm. C'est une excellente question, parce que Bien, tel que j'ai mentionné, créer des ressources qui n'étaient pas là pour moi à la faculté a été comme vraiment important pour moi. Autant que je voulais le diffuser en ligne pour les autres, je faisais et je fais encore mon podcast plus pour moi que pour les 100 personnes qui vont aller l'écouter. Parce que si je m'aurais dit, tu sais, comme, je commence un podcast pour que les gens l'écoutent, puis que si jamais comme il y aurait eu 6 personnes pour une année qui l'écoutent seulement, comme j'aurais été déçue. Mais à cause que j'ai tellement pas d'attente pour mon podcast, j'essaie de me donner comme, tu sais, un ou deux épisodes par quelques semaines. Je le fais juste pour mon propre développement personnel et professionnel. J'aime tellement ça, parler pédagogie avec d'autres gens qui aiment parler pédagogie, que je me disais comme, mais pourquoi est-ce que je diffuse pas ça en ligne? Parce que ça se peut qu'il y a des gens qui aiment écouter des gens parler de pédagogie. Donc, ça a été important. Puis l'autre aspect, c'est juste l'importance de produire du contenu francophone. J'étais tannée d'écouter les centaines et les centaines de podcasts qui existent déjà en éducation en anglais. Parce que nous, même si ça se passe juste dans une langue différente, on a beaucoup de défis langagiers, culturels, identitaires en lien avec la francophonie. Puis ça, c'est autant que l'éducation puis la pédagogie me passionne, aussi comme les aspects comme la francophonie, l'identité culturelle, la linguistique, les régionalismes, les accents. Ça, c'est comme l'autre passion que j'ai qui si jamais comme j'arrête d'être...
T'as entièrement raison.
Oui, c'est certain que je me poigne comme... C'est certain que si j'allais pas être prof, j'allais être animatrice pour des camps d'été ou des choses qui... font vraiment par rapport avec la culture franco-ontarienne. Et puis, donc, j'ai beaucoup d'épisodes, justement, qui parlent de la francophonie, soit avec des élèves, soit avec des enseignants, puis juste toute cette idée-là de parler d'accent, d'insécurité linguistique, de contexte minoritaire, de partager ma langue aussi, d'être assez fière de la façon dont je parle pour diffuser du contenu, de ma vraie voix, de mon accent. Ça a été un cheminement important pour moi. Puis une des raisons pour laquelle je continue à partager mes expériences dans ma langue, puis juste comme ça.
Bien, j'aime beaucoup la façon dont tu exploites la technologie puis tout le réseautage qui est possible maintenant, qui ne l'était pas avant. Et ce n'est pas tout le monde qui sait que ça existe et qu'il y a une grande communauté d'éducateurs sur Twitter, sur Facebook, dans les podcasts.
Oui. Puis si je peux comme enseigner à ceux comme, même si je suis juste dans ma première année d'enseignement, je me sens un peu capable d'être là pour appuyer des gens qui ont 10-15 années d'expérience dans un domaine qui me passionne, donc comme l'intégration de la technologie en salle de classe ou dans la vie professionnelle, l'importance du podcasting, l'importance du réseautage en ligne. Comme, j'ai plein d'aspects qui me passionnent plus que d'autres, mais c'est le fun quand je suis capable d'en jaser avec d'autres pédagogues comme vous.
Oui, absolument. Alors, évidemment, vu que toi, t'as commencé un podcast, sans doute que toi, tu es une grande amatrice. Évidemment, nous autres aussi, on passe la moitié de notre temps à chaque fois qu'on se voit à discuter des podcasts, des découvertes, puis on en écoute énormément. Alors, est-ce que tu peux nous partager quelques-unes de tes émissions préférées, en sachant qu'on a seulement, on n'a pas 3 heures pour en discuter? Quelles sont tes préférées?
OK. Par où commencer? Donc, on va diviser ça en deux parties. Je vais vous nommer quelques-uns. Pédagogie francophone, pédagogie anglophone, puis d'autres podcasts comme qui ne parlent pas de pédagogie parce que j'ai juste mon fond devant moi, puis on va checker ça. So, évidemment, comme j'ai le vôtre, j'ai le... OK, ça s'appelle The Parlay Podcast, Puis c'est, je viens juste, actually, c'est un épisode, je peux vous le dire, 68 de mon podcast avec Chantal Mayer-Crittenden. Elle est orthophoniste de l'Université Laurentienne à Sudbury. Puis elle a commencé un podcast qui parle de plein de, d'aspects langagiers. Et puis, elle offre des épisodes en français et en anglais. Donc, le podcast s'appelle Parler Podcast ou Parler en balado. C'est vraiment, vraiment intéressant pour quelqu'un qui, tu sais, enseigne les langues. Puis, encore une fois, toute la linguistique m'intéresse. Donc, The Parler Podcast. Ensuite, Souliers de prof d'Erica Desrosiers. J'ai été vraiment chanceuse d'avoir Erica comme mon mentor lors d'un programme de mentorat de Voicehead Radio. Et puis, on a beaucoup jasé de ses pratiques pédagogiques vraiment innovantes qu'elle fait dans son école. Elle enseigne aussi English, mais dans son podcast qu'elle offre, qui s'appelle Souliers de prof ou A Teacher's Shoes, elle parle avec beaucoup de leaders, autant en pédagogie que qui ont des entreprises, qui font du coaching, motivation. Donc, je vous recommande vraiment fortement d'aller checker ça. J'ai aussi aidé Erika à faire son logo de podcast. Donc, ça a été vraiment génial, une belle collaboration avec elle. Vous connaissez sûrement Joelle McLean avec Inspire Leadership, j'imagine.
Oui.
Un podcast, encore une fois, moi, je connaissais Joelle avec l'équipe tactique du CFORP. Donc, Joelle, il est vraiment fin. J'ai été invitée sur son podcast, puis il pose vraiment des bonnes questions. So, mon chapeau à Joelle. Des podcasts pédagogiques en anglais que j'écoute, The Ed Podcast, ça vient de l'Alberta, vraiment, vraiment cool aussi. Une qui m'a beaucoup motivée à commencer mon propre podcast s'appelle, c'est avec Derek Rodenizer. Et puis, pourquoi est-ce que j'ai juste eu un blank de, c'est quoi le nom de son podcast?
C'est le nom.
Oui, Derek, c'est quoi le nom de ton podcast? Il y en a tellement. Il y a comme fait des... Oh, non, pas A Word in Progress, ça, c'est son autre. Break Room, non. Derek, il va être tellement déçu. Je vais pas lui dire que j'ai comme oublié son nom. Oublié le nom de son podcast. Ben,
comment t'appelles ton nom de famille?
Rodenizer. R-H-O-D-E-N-I-Z-E-R. Beyond the staff room.
Moi, je me souviens. Toi, tu te souviens comment
écrire son nom? Oui, c'est ça.
Beyond the staff room.
OK. Puis pourquoi j'aime Derek tellement, c'est parce qu'il est tellement un amateur de la philosophie. Puis ses questions sont tellement intenses et sont tellement philosophiques et qu'il parle de l'éducation que tu peux vraiment te perdre dans ses discussions. Puis. Comme, lui, dans son intro de podcast, il dit comme, you're going to take a deep dive into like a concept of education, puis tu prends vraiment a deep dive. Comme, épisode 87, c'est juste, la question c'est, what is school? Puis les choses d'ici, c'est vraiment, vraiment fou.
Comme tu as dit, vraiment, vraiment des discussions philosophiques. Là.
Mais c'est juste deux, ouais, comme, puis des fois, il y a des épisodes juste lui-même. D'autres fois, il y a comme une invitée qui connaît beaucoup ce sujet-là, puis vraiment amusant. Puis l'autre, le dernier, anglophone, ça s'appelle The Decoded Podcast. Puis c'est avec Chris Clough et Roland Chidiac.
Oui.
Oui. Comme j'avais fait un Ignite l'année passée qui s'appelle Jump. Je l'ai faite à Kitchener, puis j'ai parlé de my jump into podcasting. Puis dans mon Ignite, j'ai dit que Derek Rodenizer, Chris Clough et Roland Chidiac ont été comme les trois personnes qui ont fait en sorte que j'ai commencé mon podcast. Puis on était justement dans comme un Twitter direct message ensemble pour, tu sais, comme ils voulaient juste me motiver à commencer ma balado. Puis c'est Chris Clough qui a choisi le nom que Sarah dans le Oui, ah, le message privé sur Twitter. Donc, j'aime toujours comme, tu sais, retourner à la base de pourquoi j'ai fait du podcasting, écouter à Derek, écouter à Roland et à Chris, qui ont vraiment des façons de penser à l'extérieur de la boîte et qui me rappellent qu'on n'a pas toujours besoin de suivre, tu sais, comme les gens. Puis c'est correct de penser différent. Donc, ouais. J'aime vraiment leur écouter. Les podcasts non pédagogiques, Le ruban de la cassette, c'est un podcast francophone avec Annick Granger qui vient de la Saskatchewan. Elle est artiste et elle passe en entrevue des gens et elle écrit une chanson à propos de leurs histoires. Puis à chaque fois que j'écoute ces épisodes, je pleure. C'est vraiment touchant. Puis là, je dirais, oui, c'est vraiment comme aller l'écouter. Les filles, comme ça vaut tellement la peine. C'est vraiment spécial. Le ruban de la cassette.
Oui, c'est incroyable comment, en t'écoutant, c'est incroyable comment, tu sais, on peut aller chercher l'inspiration dans des places qu'on ne s'attendait pas. Et c'est intéressant comment que, tu sais, en faisant ça, on grandit puis on apprend. Puis, tu sais, ça nous permet d'aller vraiment de plus en plus loin, oui, vraiment. Oui.
Tu sais, je ne sais pas quelle sorte de podcast que vous écoutez, mais des fois, juste prendre le temps de se déconnecter de la pédagogie, c'est important. Puis j'aime écouter The Minimalist Podcast.
Absolument.
Que ça m'aide à sortir un peu de cette,
oui,
cette, ouais, ces conversations d'éducation, ouais, éducation, éducation. Donc, ça serait mes recommandations.
Voilà. Ça peut. De discuter de nos podcasts préférés, je pense que ça va être une conversation d'environ 3-4 heures. Fait que ça, on se donnera un autre rendez-vous la prochaine fois. Mais merci, Sarah. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, ce qu'on voulait discuter. Alors, sur ce, on te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps de tes vacances afin de nous parler de toi, de ton expérience comme enseignante débutante. Et je me suis dit, en te parlant, puis c'est vraiment, je me souviens très bien du sentiment que moi j'avais à la fin de la première année. Puis c'est vraiment, honnêtement, j'ai survécu, puis bien, survécu. C'était beaucoup de haut puis de bas, mais ça a valu toute la peine. Alors, nous allons sans doute continuer à t'écouter, mais entre-temps, nous te souhaitons bonne chance pour ton année scolaire 2020.
Merci, merci beaucoup, merci.
Merci, Sarah!
Bye.
Merci, Sarah!
Bonne vacances!
Bye!
Merci d'avoir écouté l'épisode. Vos animatrices sont Jennifer Davies, Mylène Brassard et Vicky Fauteux. Un remerciement particulier à nos directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamont. Le montage est fait par Vicky Fauteux. La musique est créée par Ralph Grant et enregistrée par les Productions Guérin. Les dessins du logo sont créés par Francis Fauteux et notre logo est créé par Mylène Brassard. À la prochaine!